Alors, je voulais vous parler ce matin, partager cette pensée sur la régénération. Alors, comme je l'ai noté en petite ligne, c'est pas un terme compliqué ou qui nous emmène dans des méandres spirituels, mais c'est tout simplement la régénération. C'est Dieu qui nous donne la vie spirituelle par la foi en Jésus-Christ. Alors, cette régénération, c'est Dieu qui nous donne sa vie en tous ceux qui ont cru en lui, en son sacrifice, deviennent une création nouvelle. Nous sommes des êtres nouveaux en Christ. Alors, avant d'être sauvés, nous étions enfants de la rébellion, nous étions enfants des ténèbres, nous marchions dans l'obscurité, nous étions des dégénérés. Et aujourd'hui, Dieu nous régénère. Nous étions déconnectés de ce qui concerne Dieu et les choses spirituelles en Christ. Alors Christ est formé dans nos cœurs et nous sommes rendus participants à la nature divine. Nous sommes entrés dans cette dimension spirituelle et là, justement, je voudrais ouvrir une parenthèse du fait que nous avons pris la Sainte Seine. Alors quand nous avons cet éclairage spirituel, cet esprit de Dieu qui nous éclaire, c'est comme un petit peu ces nouvelles lumières que nous avons, ces ampoules LED qui éclairent deux fois, qui sont deux fois plus puissantes que les autres. Et du fait qu'elles sont puissantes, on voit beaucoup, on distingue des choses qu'on distinguait peut-être pas avant. Et quand l'éclairage du Saint-Esprit révèle en nous notre peut-être mauvais caractère ou nos dérapages ou les choses que nous aurons dû faire et que nous avons fait, donc ça nous met un petit peu dans une forme d'inquiétude. Et on se dit, ma mince, est-ce que je vais perdre mon salut? Alors ce n'est pas ça du tout. C'est que nous perdons pas le salut, et je le répète souvent, mais nous perdons la joie du salut. C'est pas pareil. Nous sommes plus enthousiastes, nous sommes plus tellement joyeux parce que justement il y a des choses qui voilent notre relation avec Dieu. Mais si Dieu éclaire ces choses qui doivent être enlevées en nous, c'est pour notre bien, parce que Dieu veut travailler. Et ce qui est extraordinaire, comme je disais avant, et c'est noté dans Ésaïe, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Alors, se refuser de prendre la Sainte Seine, on se dit, mais je suis tellement indigne que je ne peux plus prendre ces éléments. Mais c'est justement l'inverse. C'est parce que nous ne sommes pas indignes que nous devons prendre ces éléments pour devenir dignes. Alors, ne nous laissons pas influencer par notre propre pensée, par des pensées charnelles ou par les oppositions que le diable met sur notre glisse, dans nos pensées, sur notre chemin, en disant, mais tu peux pas prendre la Sainte Seine, tu es indigne, qu'est-ce que tu as encore fait cette semaine? Dans quoi as-tu encore dérapé? Dans quoi tu étais encore enlisé? Ben, Dieu nous a invités. Le fait d'être éclairé sur ce que nous sommes, ah, c'est quelquefois c'est pas beau, hein, parce que plus qu'on marche avec Dieu, j'ai l'impression moins qu'on est bon. Oui, c'est ce que je ressens. Mais Seigneur, oh, malheureux que je suis. Mais Seigneur, je te loue et je te bénis parce que ton sacrifice est tout puissant. Il va au-delà de mes manquements, de mes faiblesses. Parce que si je me repens, tu es là pour me purifier et me laver de tout défaut, de tout manquement, de toute faiblesse. C'est ça une bonne attitude de foi. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire et d'entrer. Alors, je vous ai mis des versets. Romains chapitre 12, verset 2, où il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Frères et sœurs, la grâce de Dieu nous forme à l'école de la sainteté. Extraordinaire. Alors dans Hébreux, chapitre 12 au verset 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Alors le châtiment, alors aujourd'hui, parler du châtiment, ça peut nous emmener loin. Dans le sens où aujourd'hui on est condamné pour peu de choses. Et parler aujourd'hui de châtiment, c'est pas évident. Alors dans le terme châtiment, on peut mettre réorienter, redresser. Il ne s'agit pas là de châtiment corporel, il s'agit pas là de recevoir des coups de fouet, de coups de bâton. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte, et puis on entend au travers des médias que nous avons fait, enfin. Nous avons fait, entre guillemets, dans la généralité de notre pays, nous avons fait les enfants rois. Et aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après, on récolte ces choses-là. Aujourd'hui, discipliner un enfant, ça devient compliqué. Employer les bons termes pour parler d'éducation, c'est compliqué. Alors quand la Bible parle de châtiment, ça devient également compliqué de le comprendre. Alors voyez, dans le châtiment, un redressement, une correction. Qui veut pas réorienter son enfant quand il dévie, n'est-ce pas? C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Hein? Donc aujourd'hui, il ne faut plus punir. Aujourd'hui, il faut plus mettre des notes. Aujourd'hui, il faut plus prendre un stylo rouge pour souligner les erreurs et les fautes. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, Dieu travaille de la même manière. Donc Dieu nous redresse, nous corrige et nous réoriente pour notre bien. Alors, la correction, le châtiment, le redressement que Dieu opère, c'est pas un châtiment punitif, mais c'est une correction, je veux dire, créatif. Dieu ne fait pas n'importe quoi. Et Dieu connaît notre caractère, notre sensibilité. Et Dieu sait comment il doit agir envers nous. Quand vous avez une famille avec plusieurs enfants, vous prenez pas une phrase commune pour tous les enfants. Chaque enfant réagit différemment en fonction de son caractère, en fonction de son tempérament. Vous pouvez pas prononcer peut-être les mêmes mots pour un tel ou un tel. Donc il faut discerner les choses. Et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu sait comment il doit agir envers nous. Alors toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28, c'est un verset qu'on connaît bien. Mais Dieu amène toute chose vers le bien. Dieu amène toute chose vers une sortie ou vers une victoire. Cela ne veut pas dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela ne veut pas dire que ça ne fera jamais mal. On passe par des douleurs, des difficultés et des épreuves. Et Dieu travaille dans nos vies. Dieu travaille dans nos vies, puis nous a dit dans l'Évangile, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et pour ceux qui travaillent un petit peu, ou qui jardinent et qui font le potager, on sait très bien que quand on plante une semence, un grain ou un plant, il faut déjà préparer le sol au préalable. Et une fois que le sol est préparé, on le plante et après il faut l'entretenir. Sinon, il n'y a rien qui se produit. Et Dieu prend cet exemple, Jésus prend cet exemple justement de ce grain de blé qui, s'il ne tombe en terre, il ne peut rien produire. Et Dieu veut justement produire des choses en nous. Croire en Dieu et mourir aux œuvres de la chair, c'est passer tantôt entre les mains du fondeur, tantôt entre celle du potier et tantôt entre celle du vigneron. Voilà un petit peu ces trois corps de métier qu'on trouve dans la parole de Dieu et qui nous parle, qui nous montre également comment Dieu opère dans nos vies. Alors dans 1 Pierre, il est noté, bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Eh oui, on est éprouvé par Dieu et Dieu nous éprouve. Alors ne soyons pas surpris quand Dieu nous éprouve. Alors, on va prendre ce premier corps de métier, être entre les mains du fondeur. Et quand j'ai pris ce titre, cette en tête, il est ressorti de mes pensées, entre les mains du fondeur, c'est la résistance et l'affermissement. Dieu, tu veux que je sois affermi et résistant. Et comment opères-tu pour que ces choses soit en moi. Donc, on a ce divin fondeur. Alors, le divin fondeur, c'est que si nous avons l'occasion ou si nous regardons des choses au travers des informations ou des... à travers la télé... Quand on rentre dans une, je me souviens quand on allait sur Metz chez mon cousin, on passait devant une grande fonderie, des usines, c'est impressionnant. Et je pense que j'ai jamais eu l'occasion, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais maintenant il est arrêté. Quand on rentre dans une fonderie, on va être attiré par la pièce finie, par le métal fini, par le métal façonné. Mais en fin de compte, si on remonte un petit peu cette chaîne de fabrication de ce produit fini, on se rend compte qu'on rentre à un moment donné dans un gros four qui fusionne, qui détache justement le minerai de la pierre et qui permet justement à cette chauffe de devenir du métal un produit fini. Alors frères et sœurs, il y a exactement, j'ai aussi vu dans une émission de télé, justement, des fondeurs de cloches. Je ne sais plus quelles cloches ils ont fondues pour je ne sais plus quelle église, quelle cathédrale. Le volume et le poids de cette cloche était tel que le moule qu'il fallait le creuser en terre. Donc, ils ont creusé ce moule dans la terre pour pouvoir justement verser ce métal en fusion, cette fonte en fusion, justement, dans ce moule qui était entouré. Ah, c'était un trou impressionnant, hein, 3-4 mètres de diamètre, 3 mètres de profondeur, voilà. Donc, c'était un creuset qui était préparé dans la terre pour recevoir cette fusion, pour pouvoir justement à la finalité avoir cette cloche, cette matière finie. Dieu utilise un petit peu le même principe. Nous sommes formés issus de la terre, n'est-ce pas? Nous sommes moulés de la terre. Et en tant que création nouvelle, en tant que chrétien né de nouveau, enfant de Dieu, Dieu veut verser son esprit en nous. Et Dieu nous fait passer par diverses épreuves. Je sais que j'ai fait un petit peu de ferronnerie à l'époque. Et dans la forge, quand on trempe une pièce métallique, quelquefois, c'est des coups de marteau qu'il faut donner pour amener justement cette pièce à la forme que nous avons souhaitée. Alors, cette pièce, il faut la chauffer. Une fois qu'elle est chaude, qu'elle est rouge, presque à la limite, presque blanche, au niveau de la fusion, on la retire du feu, on la passe sur l'enclume et le marteau. Et elle est reprise, elle est trempée dans l'eau, remise dans la forge, à nouveau forgée, martelée, et ainsi de suite. Et Dieu, justement, procède un petit peu de la même manière. Frères et sœurs, les difficultés, les circonstances extérieures sont autant de creusets, de moules, de matrices qui contribuent à notre développement spirituel. Alors, notre corps, frères et sœurs, peut être utilisé comme creuset dans lequel Dieu y déverse son esprit. Il nous façonne et nous transforme à l'image de Christ. Alors notre corps peut être touché par la maladie, par la douleur, l'affaiblissement corporel, même l'handicap physique. Oui, Dieu utilise également notre corps comme creuset pour notre croissance spirituelle. Ah oui, alors on ne comprend pas toujours. Et en fin de compte, on essaie quelquefois d'éviter ces choses et puis on prie pour que les choses s'améliorent. C'est juste, c'est bon. Mais dans ce temps de processus, la guérison n'est pas toujours spontanée. La guérison peut être tardive ou quelquefois ne peut pas être. On peut terminer notre vie dans une maladie. Pourquoi Dieu permet-il ces choses-là? Même dans ces situations, nous réalisons pas toujours comment Dieu travaille. Parce que la douleur, la perte de motivation, le moral très bas, nous donne justement d'être recourbés sur ce que nous sommes en train de vivre. Et je dirais que c'est presque tout à fait naturel d'être inquiet quelquefois en fonction des situations que nous traversons. Quand un médecin vous annonce que vous avez encore 6 mois à vivre, je pense que ça met un bon coup, hein. C'est arrivé pour ma mère. Eh oui. Donc, Dieu permet. Mais dans ce laps de temps qui nous est donné, un temps que nous soyons peut-être en bonne santé ou en maladie, Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille encore et encore. Même là, quand vous êtes assis sur votre chaise, Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu n'arrête pas. Et on n'en a pas toujours conscience. Mais Dieu œuvre. Dieu agit parce que Dieu voit plus loin. Nous sommes les pièces, peut-être, pour imaginer, nous sommes les pièces d'un puzzle que Dieu assemble au fur et à mesure. Dieu a cette globalité, cette dimension globale de son plan, de son projet. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est Dieu qui assemble les choses et nous n'avons pas cette vision globale du plan de Dieu. Alors, il nous est dit aussi à un moment donné que l'opération du fondeur est achevée, dit-on, quand on est en train de fondre de l'or ou de l'argent, des matières nobles. Il nous est dit quand l'affineur fondeur, quand il voit son visage dans le métal fondu, c'est qu'il est pur. Quand un lingot d'or a été coulé et que l'affineur fondeur y voit son visage, c'est que l'or est pur et bonne. Alors, est-ce que nous ne voulons pas refléter, nous également, cette gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alors, il nous a dit dans le psaume 66, verset 10, car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer par le creuset comme l'argent. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus apparaîtra. Alors nous voulons tous être affermis, forts dans la foi, mais nous le voulons sans épreuve. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça que dans 1 Pierre, il est dit, ne soyez pas surpris quand ces choses arrivent. Quand vous êtes dans cette fournaise, tantôt martelé, tantôt retrempé dans l'eau, tantôt plié, tordu, redressé, pour être justement conforme à Christ. Alors, pour passer Mon métier suivant, être entre les mains du potier. Et là, vous connaissez tous ce texte, et puis quand moi j'avais justement noté ce titre, potier, ça m'a fait penser à recevoir et à donner. Le fondeur, c'est être affermi, résistant. Le potier, recevoir et donner. Pourquoi? Parce que quand le prophète Jérémie reçoit cette ordre d'aller chez le potier, j'ai encore une fois vérifié, quand il est arrivé, donc c'est une prophétie pour Israël, mais n'empêche qu'elle a une profondeur qui parle à chacun d'entre nous. Et quand Jérémie est allé chez le potier, il était en train de faire un vase. Un vase. Et quand j'étais à l'époque, il y a longtemps de ça, parce que je sais plus s'ils le font, à l'écomusée de Ungersheim, il y avait donc un atelier poterie. Et à l'époque, avec l'association Access, on livrait du bois résineux pour justement chauffer le four pour la poterie. Parce que le bois résineux, il a une bonne flambée. Il n'a pas beaucoup de calories, mais il a une grande intensité. C'est ce qui était recherché pour justement et pour la cuisson de la poterie. Et alors, j'ai pu voir justement un potier qui est en train de travailler. Donc, comme le dit la parole de Dieu, voilà une motte d'argile. Et cette personne-là, le potier était en train justement de le presser, de compresser cette motte sur son tour. Et effectivement, il était en train de former un récipient ou un vase. Et quand j'ai regardé, le vase, pour moi, il commençait à prendre forme. Et puis, elle s'est arrêtée à un moment donné, cette personne, je sais plus si c'est une fille ou un potier, bon, peu importe. Et à un moment donné, j'ai dit, ah tiens, maintenant ça doit être fini. Effectivement, il y avait déjà une forme. C'était pour moi, c'était bon. Elle retrempe les mains dans l'eau pour humidifier et pour continuer. Oula, je pensais, tiens, pour moi, c'en était déjà fini. À la première touche, je pensais que c'était bon, c'était fini. Eh ben non. Donc, ce potier a continué. Et à un moment donné, quand il avait fini justement de faire les tracés, il commence à prendre justement un outil en bois et il commence à faire des rainures sur ce pot, sur ce vase qu'il était en train de faire autour de ce vase. Et je me suis dit, ah tiens, maintenant c'est bon, ça en est fini. Donc voilà, il commence à avoir une décoration. Je dis, ah bon, c'est fini. Non, c'était pas fini. Ce n'était pas la touche finale. Et voilà, après cette décoration, il y a des poignées qui ont été rajoutées. C'est ouh là là, maintenant encore des poignées. Et je pensais également que ces choses-là étaient finies. Maintenant, pour moi, ce vase est fini. Non. Il le décolle du tour pour le faire sécher. Et quand ce vase était sec, il ou elle l'a trempé justement dans des pigments colorés et il commence à être plein de couleurs. Je dis, ah oui, c'est bon, c'est fini. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont pris justement ce vase pour le mettre dans un four. Et dans ce four, justement, la température était telle qu'à un moment donné, donc tout ce pigment de peinture qui a été placé dessus est devenu vraiment comme de la céramique. Quand ce vase était fini, j'étais là, stupéfait de ces couleurs, de cette brillance. Moi, à prime abord, la première touche du potier, pour moi, ce serait déjà été bon. Frères et sœurs, quand Dieu nous travaille, quand Dieu façonne, quand on croit que c'est fini ou qu'on est arrivé peut-être à un certain palier, ce n'est pas encore fini. Dieu continue à travailler, Dieu continue à œuvrer, et tout cela jusqu'à la fin de notre vie. Quelquefois, on pense, oui, Seigneur, maintenant c'est bon, maintenant c'est bon. Non, c'est pas encore bon. Non, c'est pas encore bon. Et Dieu continue à travailler et à nous transformer. Le divin potier, ou même ce potier, a transformé cette motte de terre en un vase d'honneur. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Alors pour moi, même si la première étape du potier, c'était déjà beau et fini, c'est encore bien loin de la finalité. Alors, j'ai noté quelques versets dans le psaume 9, verset 21. Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. À partir de la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or et en argent, mais il y en a aussi en bois et en argile. La première est réservée à des occasions spéciales, l'autre est destinée à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie, dans 2 Timothée 2, 21, si quelqu'un se purifie de tout mal que j'ai mentionné, il sera rempli, il sera apte à remplir des tâches spéciales, il est entièrement à la disposition de son maître, et il est utile, il est prêt à faire toute bonne action. Alors oui, quelquefois, quand nous sommes pris dans la souffrance, dans les épreuves, quand nous sommes pris dans des difficultés, nous réalisons pas toujours ce que Dieu fait. Nous sommes souvent dans cette incompréhension, mais Dieu fait de nous des vases d'honneur utiles à toute bonne œuvre. Dieu veut nous remplir afin que nous puissions donner. Et Dieu ne nous remplit pas seulement à la limite du vase ou de ce que nous sommes, mais Dieu veut nous remplir jusqu'à déborder. C'est ça l'œuvre et l'action de Dieu, que le Saint-Esprit puisse déborder de nous. Et pour cela, ben, nous passons entre les mains du divin potier, entre les mains du vigneron. Le vigneron, là, c'est compréhensible, c'est porter du fruit. Donc, j'ai noté quelques versets. Je les afficherai après. Quand je fais les vendanges chez mon ami, maintenant j'ai compris, mais tout au début, quand je voyais ce cep, ces vignes, ces ramifications, ces sarments qui portaient justement ces belles grappes de raisin, je lui ai dit à un moment donné, naïvement, je fais écoute, l'année prochaine, il y aura encore le double, parce que l'année prochaine, elles vont croître encore plus, et il y aura encore plus de raisins. Et il me fait non. Il faut que je coupe. Il faut que j'émonde pour avoir non seulement le volume, mais aussi la qualité du raisin. Parce que si on laisse pousser ces sarments, à un moment donné, le fruit qu'ils portent, au fur et à mesure des années qui vont passer, il va s'amoindrir. Et à un moment donné, il n'y aura plus de fruits. Vous aurez uniquement une vigne, un cep et des sarments d'ornement. Il n'y aura que des feuilles, mais porteront pas de fruits. Et Dieu veut justement que nous portions du fruit. Et pour que nous puissions porter du fruit, il faut que Dieu nous émonde. Il faut que Dieu enlève des choses. Il faut quelquefois pouvoir dire non à certaines choses. Aujourd'hui, peut-être dans l'Église, on peut avoir des personnes qui sont justement dans des activités, mais elles produisent quelquefois trop d'activités qui étouffent peut-être le fruit. Alors c'est louable de faire beaucoup de choses et souvent, par manque de main-d'œuvre, par manque justement d'engagement de frères et des sœurs, il y en a beaucoup qui portent à eux tout seuls beaucoup de choses. Et là, il faut être vigilant et faire attention. Quelquefois, pouvoir dire non. Je m'étais engagé dans l'association culturelle AFP pour tout ce qui concerne la famille. Et j'ai mon renouvellement justement de membres du comité qui se fait. Et j'ai dit au pasteur, je peux pas. Faut que j'arrête. J'ai essayé, mais ça va pas. C'est une surcharge que j'ai. Et en fin de compte, je me sens pas utile dans ce domaine. Et je préfère laisser la place peut-être à une autre personne. Savoir dire non. Alors, spirituellement, on voudrait faire beaucoup de choses. Mais en fin de compte, est-ce que c'est Dieu qui nous demande de faire quelquefois beaucoup de choses? Je ne sais pas. Quelquefois, on est amené, ça c'est presque sûr, à faire plusieurs choses, mais quand ça prend pas le dessus, c'est que ça va. Et alors, dans la vie courante, c'est pareil, le suractivisme. On est à droite, tu es à gauche. Et moi-même, il faut que je fasse attention. Ma femme me dit toujours, tu fais beaucoup de choses. Et la dernière fois, elle me dit, t'es un fantôme. Je te vois jamais à la maison. Donc oui, effectivement. Donc on peut faire beaucoup de choses. Mais après, il faut aussi savoir, comment je veux dire, les porter. Parce qu'à un moment donné, on peut plus porter justement toutes ces choses-là. Ça devient trop lourd et on craque. Ou alors, à un moment donné, on est tellement dans la diversité qu'on porte plus le fruit que Dieu voudrait qu'on porte. Savoir dire non à certaines choses, c'est aussi l'action de Dieu. C'est Dieu qui nous pousse quelquefois à couper, à dire non. Tu aimerais bien, mais non. Ah, je coupe. Et ainsi de suite. Pour notre bien. À quelquefois, nous ne comprenons pas toujours. Et quelquefois, ça peut paraître louable, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors, il nous a dit, là, dans Jean chapitre 15, au verset 1, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est ce que mon collègue disait. Il faut que j'émonde la vigne pour qu'elle produise encore plus de fruits de meilleure qualité. Et c'est extraordinaire parce que dans la période hivernale, quand la période de la taille, quand vous passez maintenant le vignoble, il n'y a rien du tout. Il n'y a qu'un cep et deux sarments. Et au fur et à mesure, vous voyez que ça commence à pousser, à bourgeonner, à avoir des feuillages, des sarments qui viennent. C'est incroyable. Donc Dieu nous invite à comprendre ces choses naturelles pour que nous puissions justement comprendre ce qu'il fait également en nous. Et il est dit au verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Alors que Dieu nous aide justement dans notre quotidien, dans nos projets, justement à être ces vases, à être aussi ces fers de lance. À être affermi justement dans cette fonderie de Dieu, à être justement être ces vases réceptifs à ce que Dieu veut déverser dans notre cœur, avec cette argile que Dieu façonne, ce vase d'honneur que nous pouvons être. Et je me souviens également de en sixième, je crois que c'était, ou en cinquième, je sais plus. Je faisais un beau dessin, j'ai essayé de dessiner un visage que j'avais recopié sur un livre. Et pour comprendre un petit peu les techniques du dessin, il fallait quadriller, il fallait reprendre. Et à un moment donné, la maîtresse, elle est venue. Et pour moi, le dessin, il était cohérent, il était bon. Et puis d'un coup, elle prend son crayon, elle affine le coup de crayon, elle prend la gomme, elle efface certains traits, et ainsi de suite. Donc elle a enlevé des choses, et elle en a remis d'autres. C'est-à-dire pour justement donner de plus de valeur et de relief à ce que j'étais en train de faire, à ce que j'étais en train de dessiner. Et c'est un petit peu ça. Dieu enlève pour mettre des choses nouvelles. Nous avons besoin justement d'être dans un renouvellement continuel. Et pour être dans ce renouvellement continuel, ah ben oui, les soucis de la vie en font également partie. Et je disais la dernière fois, Dieu travaille ma patience. Et comment Dieu travaille ma patience? C'est tout simple. Oui, c'est très simple, hein, ne cherchez pas midi 14 heures. Hein. Quand je vais faire les courses, je suis déjà le premier impatient. Il faut que ça aille vite. Donc j'ai déjà mes rayons où je dois aller, tac, 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 j'arrive à la caisse, hein. J'ai déjà ma carte de fidélité en main, voilà. Mais quand j'ai une personne devant moi, qui attend depuis 5 minutes comme moi, mais qui arrive à la caisse, qui est obligée de chercher, soit elle paye en espèces ou en carte, alors soit elle cherche sa monnaie ou sa carte, je pense à ma main salaud, est-ce qu'elle pouvait pas préparer sa carte avant pour que ça aille un peu plus vite? Ouais, et alors, elle n'a pas sa carte de fidélité, elle peut payer, mais elle n'a pas sa carte de fidélité. Alors du fait qu'elle n'a pas sa carte de fidélité, il lui faut l'adresse. Ah, l'adresse, oui, mais c'est pas sous le nom de la femme, c'est sous le nom du mari, ah, ou inversement. Ah oui, alors il faut le numéro de téléphone. Et alors ça continue. Et alors je pense, c'est passé. Non, 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 ça sonne. Tac, caissière qui décroche, t'as dit, ah oui, oh là 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 là. Mais Dieu travaille ma patience. Par ces petites choses, hein, toutes simples. Hein. Voilà. Alors Dieu travaille la patience, et quand vous sortez et que vous voulez démarrer votre véhicule et que ça ne démarre pas, boum, encore, boum, encore un coup de marteau. Aïe, aïe, aïe. Et puis, au bout de la deuxième ou troisième fois, heureusement, ça démarrait. Mais juste pour dire, hein, il y a des choses qui s'accumulent. Et ça, c'est un petit peu le feu du fondeur qui fait en sorte, par des petites choses comme ça, ou alors par des choses qui sont beaucoup plus importantes et quelquefois beaucoup plus graves. Hein? Voilà, Dieu travaille. Alors, en conclusion, passer entre les mains du divin fondeur pour être affermi. Passer entre les mains du divin potier afin d'être des vases d'honneur remplis de son esprit. Les mains du divin vigneron pour se laisser émonder afin de porter du fruit. Oui, Seigneur, aide-moi de porter du fruit. Nous sommes mis à part comme la meule de l'argile extraite de la terre pour être modelée. Nous sommes mis à part comme le minerai de fer extrait de la pierre pour être transformé par le feu. Nous sommes mis à part comme la vigne exposée au soleil sur les coteaux pour être émondée et porter du fruit. Oui, nous ne sommes pas dans ce monde égaré, perdu, mais Dieu prend soin de nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu travaille avec compassion, avec amour, avec patience. Quand on parlait avant de châtiment, de correction, Dieu a cette douceur pour nous ramener. Quelquefois, c'est un petit peu plus dur, tout dépend de notre caractère. Quelquefois, il faut que Dieu nous secoue un petit peu parce que on ne comprend pas du premier coup. Quand on ne comprend pas du premier coup, quelquefois, on ressent un peu plus des difficultés ou des choses. Je ne veux pas dire que toutes les difficultés sont sujets à une réorientation ou autre, mais en tout cas, que nous soyons dans la satisfaction du fait que tout fonctionne à un moment donné dans notre quotidien, que nous soyons en paix ou en joie, dans la joie ou que nous soyons dans la difficulté, Dieu travaille et Dieu œuvre en chacun d'entre nous. Et on peut presque se dire à nous-mêmes, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, afin que tu puisses faire ton œuvre en moi, afin que je puisse continuer à croître, à grandir, afin que je puisse résister à tout ce qui vient me tenter, afin que je puisse résister à tous ces assauts du diable qui cherche à me dévier, que je sois comme ce fer de lance façonné, dur, un métal dur. Alors pour figer un métal qui a été façonné, il faut le tremper dans l'huile. Et une fois que ce métal est plongé dans l'huile, il garde ses propriétés et il est durci. Soyons vraiment sous l'action du Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit, comme il est dit dans Galates, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alors que Dieu nous aide à ces choses-là. Alors, comme cela a été dit dans 1 Pierre, ne soyons pas surpris quand nous sommes éprouvés. Mais Seigneur, même si nous ne comprenons pas tout, je sais, Seigneur, que tu es en train de faire une œuvre en moi. Je sais que tu es en train de faire des choses, de produire des choses en moi. Je ne les comprends pas. Mais Seigneur, tu es fidèle, comme cela a été dit dans les prières. Dieu, tu es le Dieu fidèle. Et merci pour ta fidélité, ta compassion, et ta grâce. Alléluia. Alors laissons-nous vraiment toucher. Et puis j'ai encore dans la maladie, j'ai vu aussi sur une chaîne d'infos, parce qu'il y a ce nouveau texte de loi de fin de vie là, hein, qui est en train d'être débattu, et je crois qu'il y a beaucoup d'opposition, et tant mieux, parce qu'il faut aussi prier pour ces choses-là. Tant mieux, parce que c'est un petit peu du suicide assisté qu'on essaie de masquer sous d'autres termes. Accompagnement de fin de vie. Et on sait très bien quand des textes comme ça passent, donc le cadre, il est plus ou moins établi, mais ça dérape très rapidement. Dérape très rapidement. Donc, j'ai vu aussi un jeune qui était ingénieur, un jeune belge, qui était touché par la maladie de Charcot, je crois. Donc, il était déjà très handicapé. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour l'emmener de Belgique jusqu'à un plateau télé parisienne. Donc, il était dans son fauteuil roulant et il pouvait uniquement parler à travers d'un récepteur qui transmettait sa pensée dans l'ordinateur. Et il était là sur ce plateau de télé justement pour parler justement de la fin de vie et d'être contre ce texte de loi qui avait été débattu. Et quand j'ai entendu ce jeune homme handicapé dire, mais c'est comme au fond de lui-même, c'était pas apparent. Il était là dans sa paralysie, mais au fond de lui-même, il avait une puissance de vie mais extraordinaire. Ah, je ne sais pas si c'était chrétien ou pas, en tout cas, il avait une puissance de vie. Il a dit, je suis amoureux, je suis amoureux. Alors, il avait une compagne, elle n'était pas là, elle n'a pas, comment, elle n'était pas là, sur ce plateau. Je suis amoureux, j'ai envie de continuer de vivre, et s'il savait déjà qu'il allait mourir dans quelque temps. Vous vous rendez compte? Quel exemple! Quel exemple! J'étais là interpellé, j'ai dit, mais mince, salaud. Et nous, chrétiens, quelquefois, nous sommes un peu là, surpris de choses qui peuvent arriver. En fin de compte, il y a beaucoup de choses qui arrivent au commun des mortels. Hein. Nous sommes tous sujets à tomber malades, tous sujets à des accidents ou autres. Alors on peut dire, Seigneur, merci pour mon état de santé qui me permet d'être là aujourd'hui. Permet, Seigneur, merci de ce que tu m'as gardé aujourd'hui. Combien d'accidents avons-nous évité? On dit, oh là là, aujourd'hui j'ai eu la chance, hein, il y a un qui m'a refusé la priorité ou des choses comme ça. Hein? Donc, vraiment que la grâce de Dieu continue son œuvre en nous. Et on peut dire, Seigneur, aide-moi à ne pas être comme cela a été dit par Étienne pour la Sainte Cène. Ne soyons pas réticents. Ne soyons pas égoïstes. Et ne soyons pas en opposition de ce que Dieu fait dans nos vies, mais en disant avec humilité et avec grâce, Seigneur, aide-moi. Et Dieu nous aide à travers ces situations que nous pouvons avoir et dans lesquelles nous sommes peut-être aujourd'hui, ce matin. Amen. Je vous invite à vous lever, on termine par la prière. Amen.